Radio Canyon vous présente dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Pauvre petite fille riche. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. De ta mère défunte, j'ai trouvé des lettres qui m'ont appris qu'elle me trompait depuis des années. Brigitte n'est pas de moi. Dès que j'ai appris ceci, je peux te dire que j'ai été surpris. Ensuite, j'ai pris une décision. Je te fais mon seul héritier et je lui dis d'aller loger ailleurs. Antoine prend un cigare dans la boîte à cigares. Serge, son fils, est tellement surpris par cette nouvelle qu'il ne réagit pas.
Je sais, c'est dur, mon petit. Crois bien que pour moi.
Il regarde sa montre.
Il est 23h. Ta sœur ne veut pas tarder à rentrer. Je tiens à lui parler, seul à seul. Tu peux te retirer.
Le fils se lève. Ne soyez pas trop dur et n'y est pour rien.
Ne crains rien. Je la congédie et c'est tout.
Serge se penche vers son père et l'embrasse. Bonne nuit, père. Et il sort. Le père, Antoine Breton, reste à son bureau. C'est un gros homme, chauve, de 50 ans. Il possède une usine de produits chimiques. Sa femme vient de mourir il y a de cela un mois. Et vit seul avec ses deux enfants dans une maison à charbonnière. Une demi-heure plus tard, Brigitte ouvre la porte d'entrée de la maison. Elle revient d'une soirée qu'elle a passée chez des amis. Après avoir refermé la porte derrière elle, elle suit le couloir. Pour monter à sa chambre. En passant devant le bureau de son père, la porte est restée entrebâillée. Elle voit de la lumière. Elle jette un coup d'œil et voit son père assis à son bureau.
Ça ne va pas, père?
Viens, entre. J'ai à te parler.
Elle entre dans la pièce. Il la voit arriver vers lui. C'est une jeune fille de 18 ans, grande, mince, des cheveux longs, blonds, yeux bleus. Elle a un côté très élégant. Elle porte une robe beige.
Assieds-toi.
Elle s'assoit en face de lui.
Voilà, je vais te dire quelque chose qui va te surprendre. Ta mère me trompait, ceci depuis de nombreuses années. Tu n'es pas ma fille.
Brigitte est surprise.
Puisque c'est comme ça, tu n'hériteras pas de moi. Et je ne veux plus de ta présence ici.
Mais père, c'est pas possible que mère vous ait trompé.
Il l'arrête d'un geste et lui dit
« J'ai des preuves irréfutables. Ce sont les lettres de son amant. »
« Mère, ce n'est pas possible. »
Elle est effondrée.
« Moi, je vous aime, père. Je vous aime comme un père. »
« Je ne suis pas ton père. »
« Vous n'allez pas me chasser. »
Elle se lève et va se mettre à genoux devant lui.
Il n'y a pas que le lien du sang, il y a surtout celui de l'amour.
Je t'en prie, Brigitte, relève-toi, cela ne sert à rien. Il faut que tu partes. Tu ne peux pas vivre dans la même maison que celle de mon fils. Ta présence souille la famille, toi la fille illégitime. Non, il faut que tu partes.
Mais j'y suis pour rien, si mère a fauté.
Laisse-moi, ma décision est prise. Pars.
Brigitte habite à Lyon dans un petit immeuble rue de l'Annonciade au numéro 14. Un petit deux pièces au cinquième étage. Heureusement que ce vieil immeuble a été rénové par le PAC et qu'il y a l'ascenseur. Son petit appartement, elle l'a meublé comme elle a pu. Son père l'a fait partir juste avec son livret de caisse d'épargne et il n'y avait pas grand-chose dedans. Mais des copines lui ont donné de vieux meubles. Elle s'est inscrite à la faculté de droit et a trouvé du travail juste en face de chez elle, à l'hôpital Saint-Charles, l'hôpital protestante. Elle est femme de service, ce qui fait qu'elle prend des cours le soir et la journée elle travaille. C'est un travail assez pénible et une fois qu'elle a fini sa journée, elle n'a qu'une seule envie, c'est de se reposer. Une de ses copines, un samedi, lui avait proposé d'aller au théâtre des accessoires, qui est pourtant dans la même rue qu'elle et à 2 minutes. Elle a refusé, trop fatiguée. Malgré cela, elle semble heureuse. Chaque matin à 8h30, sort en même temps qu'elle de son appartement son voisin de palier. C'est un jeune homme de 22 ans, grand, mince, chantin, le visage très fin, toujours impeccablement habillé en costume. Ils se disent bonjour et descendent les escaliers ensemble. Ils ne prennent l'ascenseur que pour monter. Brigitte l'a remarqué, mais lui ne semble pas la voir. À chaque fois qu'ils descendent ensemble, elle a un petit pincement au cœur. Le jeune homme, c'est René Duroy. Une fois qu'il est sorti de l'immeuble, il se dirige vers les quais du Rhône. Dans sa boîte aux lettres une lettre qui ne lui était pas adressée. Il l'ouvre et la lit. C'est une amie de Brigitte qui lui écrit. Par cette lettre, il apprend l'histoire de Brigitte. Encore une pauvre fille. Il remet la lettre dans l'enveloppe. Il va la porter à la jeune fille. Ouvre la porte et voit son voisin. Excusez-moi, mais j'ai ouvert une lettre par mégarde qui vous était adressée. C'est le facteur qui s'est trompé. Il lui tend la lettre, elle la prend. Je vous remercie. Il semaines plus tard, René se trouve à une table dans un café Cour Lafayette.
Oui.
Arrive vers lui un homme grand, mince, cheveux gris. Il est habillé d'une veste pied de poule marron et d'un pantalon marron. René fait la grimace. Il n'aime pas cet homme. Bonjour René. Bonjour Maxime. Je peux m'asseoir, si tu veux. Maxime s'assoit en face de lui et commande un bourbon. Alors, comment vas-tu mon beau?
Rien. Toujours la même chose.
Tu n'as toujours pas trouvé ton héritière?
Non.
Pas de connaissance de fille de riche?
Non.
Il hausse ses épaules. Ah, si, une, mais elle est pauvre.
Raconte-moi ça, mon vieux.
Ouf, tu sais, ce n'est pas grand-chose. En ouvrant une lettre qui ne m'était pas destinée, j'ai appris par hasard que ma voisine de palier appartient à une riche famille d'industriels. Mais malheureusement, sa mère trompait son père. Et il l'a renié, déshérité au profit du fils. Et la mère est morte. Voilà, c'est tout.
Bonsoir, commissaire. Bonsoir, l'abbé.
Tu plaisantes. Il y a à réfléchir. Suppose que le fils meurt. Le père, seul, pris de remords pour sa fille qu'il aimait avant de savoir tout cela, la rappelle et elle devient héritière. Quelque temps après, le père mort lui aussi.
C'est très bien tout ça, mais ils ne sont pas morts.
Cela peut s'arranger. Je connais quelques personnes.
René devient tout rouge.
C'est un crime?
Oui.
Et pourquoi ferais-tu cela pour moi?
Maxime serre très fort la main de René.
Et aussi pour avoir 20% de la fortune.
Ça ne va pas.
Le foie.
Maxime retire sa main. Tu réfléchis à tout cela. Je sais, le hasard joue un grand rôle là-dedans. Le père peut tout aussi bien ne pas rappeler la fille. Dans ces conditions, tu ne te maries pas avec elle. Tu la fréquentes jusqu'à ce qu'elle devienne héritière. Ah, mais la fille peut aussi ne pas être prise par ton charme.
Pour ça, elle l'est.
Eh bien, n'hésite pas.
Il fait non de la tête.
Réfléchis. Si tu marches, on y va. Dans les conditions que je t'ai dit.
Maxime presse très fortement la main de René et la lui caresse. Il finit son verre et se lève.
Au revoir.
René reste sur sa chaise pensif.
Non, deux blancs secs, Suzette.
Deux blancs secs.
Tu bois trop.
Une semaine plus tard, en fin de journée, René sonne à la porte de Brigitte. Elle ouvre.
Je vous prie de m'excuser, mademoiselle, mais je n'ai pas d'œuf pour faire ma mayonnaise.
Je vais voir si j'en ai. Entrez.
Il entre.
Il va à la cuisine et ouvre son réfrigérateur.
Il vous en faut combien?
Je ne sais pas, deux.
Vous avez déjà fait une mayonnaise?
Pas vraiment, j'apprends.
Si vous voulez, je peux vous la faire.
Oui, je veux bien.
Et ils vont chez lui.
C'est bien chez vous. On se croirait à la campagne.
Après lui avoir fait sa mayonnaise, elle s'en retourne. Il la raccompagne jusqu'au palier.
Merci. Ce n'est rien. Je ne vous invite pas à manger car j'attends ma mère.
En réalité, c'est une de ses maîtresses.
Le lendemain, pour la remercier, il lui demande si elle aime la musique. Elle l'invite à un concert à l'auditorium.
Désormais, chaque fois qu'ils se voient, ils se disent un petit bonjour et parlent un peu.
Brigitte le trouve très bien et heureuse qu'il ait sympathisé. Temps passe ainsi, avec ces petits riens qui font de grandes choses pour les êtres qui s'aiment. Brigitte aime René, mais elle se demande s'il l'aime. Après réflexion, elle pense que oui et se met à rêver. Un soir, pour lui dire bonsoir, avant qu'elle ne rentre chez elle, il lui a donné un baiser sur la joue. René a trouvé un travail, vendeur de vêtements chez Burton à la Part-Dieu. Allés au cinéma, ils se sont promenés sur les berges du Rhône. Nous sommes en juin, il fait très doux. René, pour la première fois, marche en entourant de sa main la taille de Brigitte. Il marche pas à pas. René lui dit « Cela fait 6 mois que nous nous connaissons. Pour moi, notre rencontre a été quelque chose d'important. Et pour vous ?» Pour moi aussi, plus que vous ne le croyez. » Il s'arrête de marcher. Je n'ose y croire. Est-ce possible pour vous aussi? Elle baisse les yeux. Je n'osais pas vous le dire, mais je crois que je vous aime, Brigitte. Moi aussi, René. Il lui a pris les deux mains, lui donne un baiser sur la joue, la fait asseoir sur un banc. S'assoit à côté d'elle. Il lui entoure les mains de son épaule. Elle met sa tête sur son épaule. Il fait nuit, les lumières de la ville brillent et reflètent sur l'eau. Le temps passe, et malgré tout, Brigitte ne demande pas pourquoi il ne fait pas sa demande. Revenant de son travail, Serge, le frère de Brigitte, a un accident de voiture. Sa voiture n'avait plus de frein. Raté un virage et est mort sur le coup. Le père, en apprenant la nouvelle, est dans tous ses états. Après l'enterrement, seul, chez lui, dans cette maison vide, qui a été le témoin de toute son existence. Il sent un froid lui glacer le corps. Il va de pièce en pièce, s'arrête devant un objet qui lui rappelle quelque chose. Suivant le couloir qui mène aux chambres, il s'arrête devant la porte de la chambre de Brigitte. La seule pièce vide où la vie peut renaître. Il ouvre la porte. Éclaire l'électricité. C'est une chambre de jeune fille, nette, claire. Les doubles rideaux, dessus de lit, dessus de chaise, en tissu blanc à petites fleurs bleues. Il s'assoit sur la chaise. Il se souvient de la scène qu'il a eue avec la jeune fille avant qu'elle ne parte.
« J'ai été injuste. Elle m'aimait peut-être. C'est vrai, ce n'était pas de sa faute si sa mère s'est mal conduite. »
semaines après, le père embauche un détective pour retrouver la jeune fille. Deux semaines plus tard, le père sonne chez sa fille. Elle ouvre. Surprise. C'est vous, père ?
Oui.
Entrez. Elle le mène au salon. Asseyez-vous. Il s'assoit. Vous voulez boire quelque chose ?
Non. Brigitte, je suis venue te demander pardon. J'ai mal agi envers toi. Ce n'est pas bien ce que j'ai fait. Pardonne-moi. Je t'en prie. Et reviens à la maison.
Elle fait quelques pas dans la pièce. Je vous ai déjà pardonné, père. Mais pour ce qui est de revenir à la maison,
je t'en prie. Je suis seul.
Seul ?
Oui, je ne t'ai pas prévenu, mais Serge a eu un grave accident de voiture. Il en est mort.
Paix à son âme. Et c'est par peur de solitude que vous voulez que je revienne chez vous ?
Oui, et aussi parce que je t'aime. J'ai passé toute une nuit dans ma chambre à penser à ce que nous avions fait ensemble, aimé ensemble. Alors, au petit matin, j'ai t'en prie que je connais à toi. Que je t'aimais.
Pendant qu'il disait cela, elle a baissé les yeux. J'aimerais bien pouvoir revenir chez vous, mais je ne peux pas. J'ai ma vie, j'aime un jeune homme qui m'aime et qui veut m'épouser.
Aucune importance. Vous vous épouserez et vous vivrez avec moi.
J'en parlerai à René.
Bon, très bien. Je vais rentrer maintenant. Et attendre ta réponse.
Le lendemain, elle en parle à René. Il n'est pas très chaud et dit qu'il faut attendre et qu'ils se marieront un peu plus tard. Elle accepte. Et nous irons voir mon père tous les dimanches. D'accord. Désormais, tous les dimanches après-midi, chez le père de Brigitte. Durant ses visites, Brigitte range la maison. Pour distraire le père, il sort en voiture dans les environs. Le père a hâte de voir sa fille habiter chez lui. Un jour, le père lui dit :
J'ai refait mon testament. Tu es mon unique héritière. Oui. J'avais tout mis sur mon fils, et s'il mourait, je donnais tout à l'État.
Il ne fallait pas, père. Tu as encore des années à vivre. Il l'embrasse sur le front. Brigitte dit la nouvelle tout de suite à René, qui ne dit rien. Le temps passe. Un soir, Brigitte téléphone à son père pour lui dire qu'elle ne pourrait pas venir le voir dimanche. Elle a pris un peu froid.
Il n'est pas grave.
Non, juste un peu de rhino. Ce dimanche-là, elle est restée seule. René est allé voir un copain. Lundi dans l'après-midi, Brigitte apprend que son père était trouvé mort dans sa salle de bain par sa femme de ménage. Elle a été électrocutée devant son lavabo, un sèche-cheveux à la main, le corps nu, le visage horrifié. C'est la bonne qui l'a trouvé. Surprise d'entendre de l'eau couler au robinet du lavabo. Brigitte est effondrée. René la soutient. 2 mois après l'enterrement, elle hérite de la fortune de son père. Et 6 mois plus tard, elle se marie avec René.
Mes chères sœurs, mes chers frères, nous voici réunis ici sous le regard de Dieu afin d'unir dans le Saint-Sacrement du mariage cet homme et cette femme.
Ils ont déménagé et habitent la grande maison du Père. Brigitte continue ses études mais ne travaille plus. René, aidé de l'homme d'affaires du Père, apprend à s'occuper de l'entreprise. Un soir, Brigitte lui a téléphoné qu'elle rentrerait tard. Alors, il passe la soirée seul dans son salon à lire, lorsque l'on sonne à la porte d'entrée. Il va ouvrir. C'est Maxime. René est gêné, mais se sent obligé de le recevoir pour mettre les choses au point. Bonjour Maxime.
Bonjour René.
Entrez. Il le conduit au salon et ils s'assoivent l'un en face de l'autre.
Alors, comment vas-tu, René?
Ça va, je te remercie.
Est-ce que tu te souviens de notre marché?
Oui, mais j'ai décidé de l'oublier.
Ah, et tu crois que ça va aller comme ça?
Oui. Maxime se lève.
Tu n'as rien d'autre à me dire?
Non.
Bon, tant pis pour toi.
Et il se dirige vers la sortie. René ferme la porte. Un mois plus tard, Brigitte et René vont se promener dans les monts du Lyonnais. Ils marchent la main dans les bois, le bruit des feuilles mortes sur leurs pas, les derniers rayons du soleil, l'odeur des feuilles que l'on brûle, les ont rendus un peu mélancoliques. Après une heure de marche, ils se sont assis sur un tronc d'arbre, au bord d'un précipice, et regardent le paysage d'automne aux multiples couleurs. Ensuite, à la nuit tombée, ils sont retournés vers la voiture. Arrivée, Brigitte inquiète, fouille ses poches de sa jupe marron et de sa veste écossaise. Que se passe-t-il?
J'ai oublié mon porte-clés, les clés de la maison sur le tronc d'arbre. Je suis vraiment désolée.
Bon, j'y vais. Venez retourner vers le tronc d'arbre. La nuit est tombée. Il se sert d'une petite lampe de poche pour chercher les clés. Il entend derrière lui des pas. Il se relève, se retourne et reçoit sur la tête un coup qu'il fait tomber à la renverse. Ah ! Gourdin tombe à terre. René, couché sur le ventre, ne se relève pas. Des bras prennent ses bras et le pousse vers le précipice. Corps tombe et se fracasse contre les rochers. Bord du précipice, une forme humaine est debout. La lune éclaire son visage, c'est Maxime.
Thank you.
Deux heures plus tard, Brigitte a pris la voiture et est allée téléphoner dans un café. Elle a prévenu la gendarmerie de la disparition de son mari. T'es allée chercher mes clés? Et je ne l'ai plus revue. Le lendemain matin, l'on a retrouvé le corps. Après autopsie, enquête, mort accidentelle.
Acabaste de bailar y te viera tu pobre mujer.
Ya no puede.
Six mois plus tard, Brigitte part en vacances à Acapulco. Un soir, dans une boîte, au bar, un homme le renverse son verre sur sa robe. Excusez-moi, je suis confus. Je payerai le dégraissage. Ce n'est rien, elle est lavable. Je vais demander au serveur de l'eau et du savon. C'est ce qu'elle fait. Elle regarde bien l'homme dans les yeux. Vous êtes français?
Oui. Il faut que ce soit un français qui vous tache votre robe dans ce pays. C'est étrange, non?
Elle sourit. À Paris, ça aurait été plus normal, bien sûr.
Vous êtes de Paris?
Non, de Lyon. Je viens souvent à Paris faire mes courses. Et vous?
Je suis de Lyon, moi aussi.
C'est étrange. Il me semble reconnaître votre voix. Il continue de discuter durant tout le reste de la soirée.
Le moment de lui demander à boire.
Et toi, tu m'offres pas un verre?
Quel est le patron?
Patron, offre-moi une petite goutte.
Juste ce qui reste dans le fond de votre verre.
On n'a pas un de demander pour boire, tu n'as qu'à le gagner.
Je veux bien. Je demande pas mieux.
Il y a longtemps qu'il n'était pas à vous danser.
Oh non, pas aujourd'hui, trop chaud.
Alors tant pis pour toi. Tu n'auras rien.
Quoi, c'est sous pour danser?
C'est bien, non, pardon. Lupita!
Ensuite, il la raccompagne à son hôtel. Comme c'est bizarre, c'est le mien aussi. Ils se disent au revoir et se donnent rendez-vous le lendemain matin sur la plage à 9h. Désormais, ils se retrouvent tous les jours sur la plage. Le soir, ils vont au restaurant ou dans des boîtes. L'homme fait une cour assidue à la femme qui se laisse plus ou moins faire. Un jour, il fait tomber une photographie de son portefeuille. Elle la regarde à la dérobée.
Bien, bon gorgé. Je te refaire à repousser.
Oui, dans la droite, va mieux. Oui.
Le soir, c'est son dernier soir. Ils sont tous deux assis sur un rocher au bord de la mer.
Écoutez, je vais être franc. Je vous trouve très belle et séduisante. Je suis épris de vous. Si vous voulez, nous pourrions nous marier. À la fin de l'année, j'en serai très heureux.
Elle se lève, il se lève. Le vent s'est levé, il fait bouger ses cheveux. Moi aussi, je vais être franche. Je ne veux pas me marier avec vous. Il la prend par la taille, la plaque contre lui. Pourtant, nous avons tous les deux le même caractère. Et il l'embrasse sur les lèvres. Elle se dégage et se sauve. Lui, il la regarde courir dans le vent et les rochers. Sa chambre, avant de s'endormir, elle pense « Si tu crois, Maxime, que je ne sais pas qui tu es, lorsque j'ai vu la photo où tu étais avec René, il fait le rapprochement avec ta voix. Oui, ta voix, car j'avais déjà entendu cette voix. Avant mon mariage, tu étais dans l'appartement de René, et tous deux, vous complotiez la mort de mon père et de mon frère. La cloison était fine entre les deux appartements. Vous aviez bu et parliez assez fort. C'était la nuit. Vous m'avez réveillé. Alors j'ai écouté. Maxime, je t'ai laissé tuer mon père, mon frère et mon mari. Mais je ne te laisserai pas me tuer. Retourne en France et n'entend plus parler de Maxime. Soirée qu'organise une de ses amies, un charmant jeune homme qui l'invite à danser. Il est grand, mince, blond, le visage agréable. Elle le trouve extrêmement séduisant.
C'est fou ce qu'il... C'est vrai. C'était pas temps d'être ici. Est-ce que je suis content d'être ici?
Ah oui?
Merci, oui.
Soirée, l'a raccompagnée chez elle. Elle l'invite à boire un verre et ils passent la nuit ensemble. Là, il faisait si longtemps qu'elle n'avait pas fait l'amour. Il est étudiant de dernière année de médecine généraliste. Ses parents sont en Bourgogne. Ce sont de gros industriels en matière plastique. Il continue de faire connaissance un peu mieux le lendemain matin dans le lit. Ensuite, il décide de se revoir. Elle aime ce jeune homme, désinvolte et calme. Avec lui, je serai tranquille. Ils sortent souvent ensemble et elle s'attache de plus en plus à lui. À la fin de ses examens, qu'il a brillamment réussi, il organise une fête chez lui en Bourgogne, avec tous ses amis de Lyon, dont Brigitte. La famille habite dans un grand domaine, un magnifique château. Après la fête, Lazare Norsberg entraîne Brigitte dans un coin reculé du parc et lui dit: j'ai entendu la fin de mes examens pour te le demander. Veux-tu devenir ma femme? Brigitte est surprise et heureuse. Oui. Il l'embrasse et ils s'assoient tous deux sur un banc. Si tu n'avais pas réussi tes examens, m'aurais-tu demandé ma main? Non. C'est le plus beau jour de sa vie. Six mois plus tard, ils se marient et sont très heureux. Lazare a ouvert un cabinet de consultation à Lyon et elle, avec l'aide du conseiller financier de son père, s'occupe de ses affaires. L'été, ils décident de faire une croisière sur un voilier jusqu'aux Antilles. Ils ne sont que tous les deux avec un petit équipage et passent une véritable lune de miel. La mer est belle et il fait chaud. Retour, une tempête fait rage. Brigitte et Lazare aident l'équipage à descendre des voiles. La tempête est de plus en plus forte. Au cours d'une manœuvre, Brigitte disparaît dans les flots. Lazare, qui était près d'elle, a failli la rejoindre lui aussi. Dans la maison de Brigitte, il est au salon, assis, il écrit un chèque et le tend à Maxime qui est debout en face de lui. Maxime le prend. Lazare se lève. Merci Lazare. C'est moi qui te remercie pour le tuyau. Ça m'a bien aidé, tu sais, avec toutes les dettes que j'avais faites à Lyon et que mon père ne voulait pas payer. Elle n'a eu que ce qu'elle méritait, tu sais. Je suis sûr que c'est elle qui m'a indiqué où je pouvais coincer René et que c'est elle qui l'a amené. Maxime caresse la nuque de Lazare et l'embrasse sur les lèvres. Radio Canut vous a présenté, dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, Pauvre petite fille riche. Mise en scène, production, Julien Jean-Pierre.